infos là-dessus. Si je vais détailler tout ça, je vais répéter les légendes, t'inquiète pas. Alors, déjà, quelques trucs qu'on a déjà vus. ICPMM, donc les trois incisives, la canine, les trois prémolaires, les trois molaires. Donc ça, c'est la formule dentaire qu'on a déjà vu tout à l'heure. On est sur la mâchoire inférieure, donc on a bien des incisives, des canines, incisives, des patates, sur la mâchoire supérieure. Ça, déjà, on sait, on l'a déjà vu. Ensuite, alors, le dentaire, c'est le nom d'un os. Parfois, on dit l'os dentaire, mais plus simplement, le dentaire, ça désigne un os. Alors, chez les mammifères, il y a un seul os dans la mâchoire, ou plutôt, il y en a un à droite ou à gauche, hein, il y a le dentaire à droite, le dentaire à gauche, et les deux sont soudés au niveau de la suture. Donc, les sutures, c'est une soudure des différents os que vous en avez dans le crâne, hein, donc il y a plein d'os qui sont tous soudés entre eux. Et voilà. Alors, ça, c'est un truc vraiment de mammifère. Hein. Chez les reptiles, dans une mâchoire, vous allez avoir 10 os différents, c'est hyper complexe. Chez les mammifères, c'est hyper simplifié, il y a un os à droite, un os à gauche, le dentaire. Bon, ça c'est juste pour vous faire un petit peu d'anatomie, c'est pas fondamental de notre histoire. Alors, là-haut, c'est le processus coronoïde, ce machin-là. Processus coronoïde. Alors, ce qu'on appelle processus en anatomie, ça désigne pas du tout processus dans le sens un procédé. Processus en anatomie, c'est une excroissance de quelque chose. Voilà, c'est un terme médical, c'est pas très important de connaître ça. Par contre, ce processus coronoïde, lui, il est très important. Alors, ça correspond à ça, hein, sur mon schéma, à ces deux excroissances, là, une à gauche, une à droite, hein, qui sont là. Et alors, c'est sur ce processus coronoïde que viennent se fixer les muscles massétaires. Fixation du muscle massétaire. Ce sont des muscles masticateurs. Massétaire. C'est hyper mal. Donc les muscles massétaires, ils viennent se fixer là-dessus. Alors, ce processus coronoïde, en fait, il est vachement grand, il est très important par rapport au processus coronoïde d'autres espèces. Si vous regardez un crâne humain, le processus coronoïde, il est ridicule. Il existe, mais il est tout petit. Là, il est très développé. Et comme c'est là, et même plus bas, tout là que viennent se fixer les muscles masticateurs, dont le muscle massétaire, ça permet d'avoir des muscles extrêmement puissants qui viennent se fixer là. Alors les muscles, ils viennent se fixer là, et puis ils sont fixés de l'autre côté dans la tempe. Si je vous le fais en entier, ça donne ça. Vous avez le processus coronoïde qui ressort là, on voit bien. Et donc, les muscles qui sont accrochés là, en haut de la tête et surtout autour de cette zone ici. Et donc, ils sont de l'autre côté accrochés là. Et c'est ça qui permet à la vache d'ouvrir et fermer la bouche, notamment, mais pas que. Alors, ensuite, il y a ce truc-là, c'est le condyle. Alors, ce condyle. Un condyle, c'est une surface arrondie d'un os impliquée dans une articulation. C'est la partie arrondie de l'os dans l'articulation. Les condyles, c'est ça, sur la vache. Les trucs qui sont là. Vous les voyez? Ok. Alors, ces condyles, alors ils sont un petit peu larges, tels que je vous ai représentés là. Ils sont un petit peu exagérés le trait quand même, mais ils sont quand même, vous les verrez en fait, ils sont particulièrement larges chez la vache. Alors, c'est si vous avez bien compris ce que c'est, hein, on est dans l'articulation, c'est-à-dire que c'est ça qui est la charnière de la mâchoire, ok? Alors, ça sert à quoi d'avoir un condyle très large? Chez nous, le condyle, il doit faire un demi-centimètre. Hein. Là, il fait 3 cm. On va dire 4. Alors, si ce condyle, il est très large, c'est qu'en fait, ça permet non seulement à la mâchoire de faire ça, mais aussi de faire ça. Comme c'est large, ben, ça peut pivoter comme ça latéralement, dans l'articulation. Si je le fais avec tout le crâne, ça donne ça. Alors, vous voyez, la mâchoire, elle se déplace latéralement. Alors, essayez de faire ça à vous. Alors, on y arrive un peu, hein. Alors faites ça pendant une journée, vous n'avez plus de mâchoire, c'est fini. Parce que vous avez un condyle qui justement est très peu développé Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez créer des efforts très importants au niveau de votre condyle, au niveau des cartilages, et vous allez abîmer vos cartilages. Et à la fin de la journée, soit vous êtes déboîté la mâchoire, soit vous êtes coupé les cartilages, et puis dans une semaine, vous mourrez de faim. Vous ne pouvez plus utiliser votre mâchoire. La vache, avec ses condyles très larges, elle peut se déplacer très latéralement, ce que ne peuvent pas beaucoup d'autres espèces. Bon, ça, c'est un truc qu'il faut garder dans le coin de votre tête. Maintenant, on va revenir à tout ça en peu dormant et des trucs comme ça. Alors, non, attendez, avant de faire ça, on va d'abord ajouter ça. Ça, c'est le sens de mastication. Le sens de mastication, c'est latéral chez la vache, et qui va, évidemment, elle peut ouvrir dans la bouche, hein. Mais surtout, elle bouge la mâchoire latéralement. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des, enfin, de beaucoup d'autres espèces, notamment l'humain. Vous, vous broyez votre nourriture, vous balancez pas la mâchoire sur le côté. Alors, bon, les dents antérieures, on les a vues, on s'en fout, on sert à faire des verres, voilà. Là, on est vraiment sur la mastication. Alors, si on regarde de quoi est faite notre dent, on s'aperçoit, et vous pouvez le voir en vrai hein, à la fin de la séance les dents, on s'aperçoit que extérieurement, il y a de l'émail et de la dentine. Dans vos dents à vous, on voit que de l'émail extérieur. La dentine, elle est uniquement intérieure et les dents sont entièrement recouvertes par de l'émail. Chez la vache, c'est pas le cas. Extérieurement, il y a de l'émail et de la dentine. Alors, l'émail et la dentine, on l'a déjà un petit peu évoqué. On a dit que c'est un tissu qui était minéralisé. Des grandes différences entre l'émail et la dentine, c'est que l'émail contient plus d'hydroxyapatite que la dentine. L'hydroxyapatite, on a dit bien, en tout cas, elle était dans le produit, quoi. L'hydroxyapatite, c'est un phosphate hydraté de calcium. L'hydroxyapatite, c'est un phosphate hydraté de calcium qui est responsable de la minéralisation des dents et des activités qu'elles sont dures. Mais elle est également responsable de la minéralisation de l'os. Donc la dentine, l'émail, l'os, tout ça, ça contient de l'hydroxyapatite et c'est ça qui fait que c'est dur. Et donc bien entendu, plus il y a d'hydroxyapatite, plus c'est dur. Et si on a très peu, ben c'est très peu dur. Bon, une des grandes différences entre l'émail et la dentine, c'est que la dentine, elle contient environ 80% de l'hydroxyapatite. L'émail en contient environ 90%. Donc il y a plus d'hydroxyapatite dans l'émail que dans la dentine. Donc lequel est plus dur? Eh bien c'est l'émail. Donc l'émail est plus dur, la dentine est dure mais moins. C'est quand même très dur la dentine, hein, mais quand même moins dur que l'émail. Alors, si extérieurement, la dent elle a cette structure-là, c'est-à-dire avec des zones. Finalement, il y a des zones qui sont constituées de dentines. Puis, il y a une zone d'émail. Puis une zone de dentine. Puis une zone d'émail. Puis une zone de dentine. Puis une zone d'émail. Sachant que la dentine est moins dure que l'émail, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, par exemple que la vache, elle mâche son herbe, qui est éventuellement en avalant des grains de sable en même temps, qui vont abraser et éroder les dents. Quel genre d'objet elle va avoir finalement cette dent? Ouais. Elle va se poser, mais elle ne va pas se poser par eux partout. Elle va se poser de façon différentielle, avec l'émail qui va être un peu plus saillant et la dentine qui va être un peu plus creusée, puisqu'il y a une dureté différentielle de ces deux matériaux que sont la dentine et l'émail. Et du coup, finalement, là on a l'impression que cette dent est toute plate, mais en fait elle n'est pas du tout toute plate. Partout où il y a de l'émail, ça va faire une crête. Partout où il y a de la dentine, ça va faire un creux. Donc finalement, notre dent elle est comme ça. Il y a émail, dentine, émail, dentine, émail, dentine. Alors ça c'est vrai sur une dent. Globalement, les zones saillantes de l'émail, elles sont représentées comment sur cette dent? Les crêtes, elles sont plutôt comme ça, plutôt comme ça. Alors ouais, latéralement, oui. Là, il y a des zones qui sont orientées comme ça. Et globalement, tout ça, c'est l'émail. Hein. Donc là, on a une crête d'émail qui est comme ça. Tout ça, c'est l'émail. Tout ça, c'est l'émail. Donc globalement, sur une dent, on a plutôt des crêtes qui sont orientées dans le sens d'allongement de la mâchoire. Même s'il n'y a pas que ça. Maintenant, si on regarde les six dents jugales, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires. Si on regarde ces six dents-là, elles sont toutes alignées de cette façon-là, parallèlement à la mâchoire, perpendiculairement au centre de mastication. Donc finalement, vous avez ici, globalement, une direction des têtes de mâle, qui est approximative pour une dent, et qui prend tout son sens quand on voit les six dents qui sont toutes alignées les unes à côté des autres. Et du coup, si vous imaginez que la vache, elle mâche latéralement, et que les crêtes des mâles, elles sont orientées dans le sens d'avancement de la mâchoire, qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce mouvement-là? Évidemment, est-ce qu'on peut dire que la vache, elle broie son œuvre? Vous voyez, ça veut dire écraser. Est-ce qu'elle écrase l'herbe? Non. Elle la frappe latéralement. Vous savez comme vous savez, les petites trappes là, pour écraser l'ail là. Il y a plein de petits trucs saillants et quand vous passez votre ail, ça le broie complètement. Enfin, ça le frappe. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que l'herbe qui se retrouve entre dedans, si vous l'écrasez, ça ne va rien lui faire. Par contre, si vous le faites comme ça, ça va complètement la déchiqueter. Et ça, à cause du fait qu'il y a, que les dents sont irrégulières, qu'il y a des crêtes d'émail très dures et des creux de dentine. Donc c'est l'association de cette orientation du trait d'émail et de ce sens de mastication latérale qui permet ce broyage de l'herbe qui est extrêmement fin. On viendrait le voir en vrai, hein, parce que évidemment, ce qui est vrai dans la mâchoire inférieure, c'est aussi dans la mâchoire supérieure. Donc il y a une râpe d'un côté, une râpe de l'autre, et donc voilà, ça, c'est ça qui permet de broyer. Comme si vous avez deux râpes à fromage et l'herbe au milieu. Forcément, l'herbe est complètement broyée. Alors, je vous donne juste quand même un mot de vocabulaire, mais ça, c'est pour votre culture. Les dents, vous voyez, les traites d'émail, elles sont assez jolies, elles sont en forme de demi-lune un petit peu. La lune, en grec, ça dit séléné. Et du coup, on appelle ça des dents sélénodontes. Vous venez juste pour information, c'est pas forcément. Pas forcément à retenir. On dit que la vache, elle est sélénodonte, puisqu'elle a des dents qui sont en forme de demi-lune. Et alors, ça, c'est vrai chez tous les ruminants, et de façon générale, chez beaucoup d'herbivores. Hein. Les chevaux aussi, ils ont des dents sélénodontes. Voilà, c'est pas le cas de tous les herbivores, mais c'est assez courant. Et ça fait partie des plus jolies dents des mammifères, parce que c'est des dents qui sont très finement ornementées. C'est bon. Voilà, les dents sélénodontes.
Une question.
C'est qu'il y a une sorte de pilier à côté. Ça, voilà. Voilà. Vous viendrez le voir à la fin pour comparer les schémas à la réalité. Pour info, la photo que vous avez dans le poulie, des dents, de tout ça, c'est cette vache-là, hein, c'est moi qui fais la photo, et je l'ai fait avec cette vache, qui est la vache qui a été traitée par le petit taureau de la photo. Bon, je vais remonter le tour. Alors, dernière chose avant de passer à la digestion du problème. J'ai appelé ça anatomie fonctionnelle d'une mâchoire inférieure de vache. Alors, ça veut dire quoi? Anatomie fonctionnelle. Alors, au début, c'était un dessin d'information. Parce que j'avais quelques anatomies, j'ai eu mon échelle et tout ça. Sauf que j'ai rajouté des informations fonctionnelles, qui sont sans domestication, direction d'état des mâles. Ça, c'est du fonctionnel, c'est pas du anatomique. Donc, c'est un schéma qui n'est pas strictement anatomique, mais c'est un schéma fonctionnel, puisque dans ce schéma, j'ai des informations sur le fonctionnement de cet organisme. Et donc, j'apporte des informations qui sont bien plus que simplement anatomiques. Donc, c'est important que vous gardiez un petit peu ça en tête, parce qu'on a parfois tendance à apprendre ces cours en apprenant uniquement les structures, et puis on en oublie que ces structures, elles servent à quelque chose. Et en fait, les structures, apprendre les structures, ça n'a aucun intérêt, ça change complètement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris comment fonctionne un organisme. Et donc, faire l'anatomie, c'est bien, mais si on n'a pas compris à quoi sert l'anatomie, ça n'a aucun intérêt. Donc gardez toujours dans un coin de votre tête que quand vous faites un dessin d'observation, quand vous dessinez des structures, c'est toujours dans l'optique de dire « Ah tiens, ça sert à quoi ? Ah, il y a ça. Et là, c'est ce qu'on veut faire. Notamment quand tu as un DS en mémoire de synthèse, il n'y a pas de document. Avec votre cours que vous savez expliquer les processus, gardez toujours ça dans le coin de votre tête. On a le droit de faire des schémas purement anatomiques, ça peut être utile. Mais surtout, il faut garder en tête que c'est pour faire de la fonction. En fait. Bon. Jusqu'ici, tout va bien? Bon. Alors, si on résume un petit peu, on en est. La vache, elle mange son herbe. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est l'herbe. Hein, on verra après. Elle mange son herbe, elle la collait rapidement, elle la bat, elle en mange des kilos. Ensuite, elle va se cacher sous un arbre. Elle s'assoit tranquillement et elle rumine. La rumination, c'est le fait de régurgiter l'herbe qui est dans la panse et de la mâcher, alors, mâcher, et de la réavaler derrière. Et donc finalement, notre panse, au début, elle est pleine d'herbe, pas du tout mâchée, et au fur et à mesure qu'elle en régurgite des petites quantités et qu'elle les réavale, le contenu de la panse est de plus en plus finement noyé, et on se retrouve au bout de quelques heures avec, avec de l'herbe complètement mixée qui se trouve dans la panse. Pour l'instant, on n'a pas encore des nutriments. Au début, on avait des gros brins d'herbe, maintenant on a des petits brins d'herbe, c'est tout. Mais on est encore très loin d'avoir des nutriments absorbables par l'alimentation de la vache. On n'a pas de glucose, on n'a pas de sélénine, on a plus de l'eau et des sels minéraux. Donc on ne va pas aller très loin avec ça. Alors, on va justement voir ce qui se passe dans la panse de la vache en termes de métabolisme microbien. Bon, alors on va commencer par rappeler ce qui se passe chez un mammifère normal, un mammifère pas trop chelou, c'est-à-dire genre cochon ou humain, quoi. Alors, chez la plupart des mammifères, l'estomac, il est unique. Voilà, il y a un estomac, vous l'avez vu chez la souris, là, il y en a un, il n'y en a pas 15. Et l'estomac, normalement, il produit des enzymes. Une enzyme, c'est une molécule qui catalyse des réactions chimiques et qui permet de détruire les grosses molécules qu'on a dans les aliments pour fabriquer des plus petites molécules absorbables. C'est ce qui se produit dans votre estomac et dans l'estomac de la souris. Normalement, on devrait s'attendre à ce que dans l'estomac de la vache, on ait des enzymes digestives. Sauf que, si on regarde un petit peu l'épithélium de l'estomac, l'épithélium, je vous rappelle, c'est un tissu de revêtement. L'estomac, il a un épithélium. Chez l'humain, il produit des enzymes. Chez la souris, il produit des enzymes. Chez la vache, dans la panse, il n'y a absolument pas d'enzymes produites par l'épithélium. Donc, c'est une question brûlante. Comment est-ce que la vache, elle arrive à digérer son herbe si dans cette panse gigantesque, il n'y a pas d'enzymes qui est produite? Alors déjà, pour commencer à répondre à cette question, il va falloir qu'on se pose la question de savoir ce que c'est l'herbe. Alors oui, d'accord, c'est un truc vert qui est plus en près. C'est composé de quoi? Qu'est-ce que c'est? L'herbe, c'est du végétal, d'accord. Un végétal, c'est un organisme. C'est composé de quoi un organisme? C'est quoi l'unité fondamentale d'un organisme vivant? C'est une question facile, hein. Niveau 6. Bon, un organisme vivant, c'est composé de cellules. Donc là, l'herbe, elle est composée de cellules. Hein. Puisque là, je pense que je ne vous apprends rien. Bon, en particulier des cellules végétales. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une cellule végétale? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans une cellule végétale? Alors, les cellules végétales, elles ont une caractéristique importante par rapport aux cellules animales. Alors, il y a la forme, je parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas de ça, on va parler un peu de la forme, justement. Les cellules végétales, vous savez sans doute qu'elles ont une grosse vacuole. Dans une cellule végétale, il y a beaucoup d'eau. Parce que c'est la vacuole, c'est un organite de très grande taille qui occupe la quasi-totalité du volume de la cellule et qui est composé quasiment uniquement d'eau. Donc déjà, la cellule végétale, il n'y a pas grand-chose à manger dedans parce que déjà, il y a beaucoup d'eau. Et s'il y a de l'eau, ben, il n'y a pas de trucs à manger. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est éventuellement comestible dans une cellule végétale? Qu'est-ce qu'il y a dans toute cellule? Qu'est-ce que vous connaissez comme élément de structure cellulaire?
Un noyau.
Un noyau. Et dans le noyau, il y a. Il y a quoi dans le noyau? L'ADN. Donc, l'ADN, si on prend un petit bout, ça fait des nucléotides. Les nucléotides, c'est bon à manger. La vache, elle a bien besoin de faire de l'ADN elle aussi. Donc, il faut bien qu'elle ait des nucléotides. Donc, ben, il y a un peu d'ADN quand même dans la cellule végétale, même pas qu'un peu. Donc, ben, l'ADN, ça peut s'hydrolyser en nucléotides et les nucléotides, c'est des nutriments. Donc, il y a des trucs à manger quand même. Est-ce qu'il y a des protéines dans une cellule végétale? Il y a un petit peu quand même. Il y a des protéines chez tous les êtres vivants. Il y a des ribosomes qui permettent la traduction. Les ribosomes, c'est constitué notamment de protéines. Mais on a aussi des protéines dans la membrane. On a aussi tout un tas de protéines qui se baladent dans le cytosol, dans le cytoplasme de la cellule. Donc il n'y a pas beaucoup de protéines, mais il y en a un peu quand même. Si on hydrolyse des protéines, ça donne quoi comme molécule? C'est constitué de quoi une protéine? Pardon? Ouais, c'est constitué d'acides aminés. C'est des acides aminés qui sont accrochés entre eux. Donc si vous prenez une protéine et que vous la coupez en petits bouts, ça fait des acides aminés. Les acides aminés, on peut les absorber. Bon, si on poursuit ce raisonnement, une cellule végétale, ça contient aussi des glucides, comme par exemple de l'amidon. L'amidon, donc vous avez sans doute entendu parler. L'amidon, c'est un glucide. C'est un glucide complexe. Un glucide complexe qui est constitué de plein d'unités de glucose qui sont reliées entre eux. Et qui se relient entre elles. Donc si vous prenez un amidon et que vous coupez en petits bouts, ça fait du glucose qui est un nutriment. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement, dans l'herbe, il n'y a pas beaucoup de trucs, parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais il y a quand même des trucs qui peuvent être transformés en nutriments. Il y a des protéines qu'on peut hydrolyser et faire des acides aminés, il y a des glucides complexes qu'on peut hydrolyser et qui peuvent donner du glucose, il y a de l'ADN qu'on peut hydrolyser pour faire des glucides, et puis il y a même des lipides. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Notamment, il y a des membranes, et les membranes cellulaires, la membrane plasmique, en fait, elle est constituée de lipides. Donc, il y a tout ça dans une cellule végétale. Et surtout, autour de la cellule végétale, qu'est-ce qu'on a? Je vous parlais tout à l'heure de la forme du carré. Pourquoi elle a une forme carrée, la cellule végétale, ou à peu près polygonale? Qu'est-ce qui entoure la cellule végétale et qui n'existe pas chez les animaux?
Une
paroi squelettique. Alors, attention, les chloroplastes, ils sont dans la cellule, ils sont dans le tout. Et une paroi squelettique, la paroi squelettique, elle est constituée de quoi? C'est quoi le principal constituant de la paroi? Bon, vous avez vu colorer, enfin, sauf si c'était pendant le confinement, on sait rien. Vous avez parlé d'une coloration des cellules végétales? Non, d'accord. La cellulose, on parle? La cellulose, c'est la principale molécule de la membrane, de la paroi des végétaux, de la paroi squelettique des végétaux. Bon. Et bien justement, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à cette cellulose et à cette cellulose pour voir de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, l'amidon, il peut y en avoir pas mal selon le type de végétaux que vous consommez. Alors que des protéines, il y en a très très peu, d'ADN aussi. Sachant que la paroi, elle occupe un volume qui peut être très important du végétal. Il peut y avoir plusieurs dizaines de pourcents du végétal, de l'herbe, qui est composé de cellulose. Donc c'est quand même, c'est de loin le principal composé qu'on va trouver chez les végétaux. Alors, la cellulose et l'amidon, ils possèdent une caractéristique commune, c'est que ce sont tous les deux des polymères glucidiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un polymère? Et qu'est-ce qu'on appelle un polymère glucidique? Pardon. Polymère, c'est une macromolécule, c'est-à-dire une molécule de très grande taille. Elle contient plusieurs milliers, voire millions d'atomes. Polymère, c'est une macromolécule, c'est une molécule de très grande taille, qui contient des milliers, au moins des milliers d'atomes. Une molécule de très grande taille, qui contient des milliers, au moins, d'atomes. Et surtout, il y a la notion de répétitivité dans la notion de polymère. C'est-à-dire c'est un motif de base qui se répète plein de fois. Dans un polymère, on a un motif de base qu'on appelle un monomère qui se répète plein de fois. Alors, et un polymère glucidique, c'est un polymère qui appartient à la famille des sucres ou des glucides. Polymère glucidique, c'est un polymère qui appartient à la famille des sucres. La famille des glucides. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme sucre ou glucide? Il y a une molécule, dont on a déjà parlé aujourd'hui d'ailleurs. C'est quoi le plus courant des glucides? Le glucose. Le glucose, c'est une formule C6H12O6, c'est un glucide, c'est le plus simple, alors, sinon c'est pas le plus simple glucide, c'est en tout cas le plus courant. C'est le plus courant des glucides. Et le glucose, en fait, il en existe deux formes de glucose, du glucose alpha et du glucose bêta. Alors on va les présenter en une forme qui va un petit peu détailler. Et vous pouvez essayer de comprendre comment est-ce qu'on va faire de la méthode de la cellulose avec ça. Ça c'est alpha, ça c'est bêta. Alors, cette forme, c'est la forme tridimensionnelle du glucose. Alors, vous avez entendu parler, je pense, en chimie organique de la forme topologique. Ouais, alors ça, c'est pas de la forme topologique, c'est un mode de représentation qui est absolument spécifique des glucides et qu'on appelle la forme de Hayward. C'est tout comme ça. Donc, c'est une façon qui est bien pratique qui permet de représenter les glucides. Alors, il faut imaginer que ces molécules qui sont identiques toutes les deux, alors un peu comme pour la forme topologique, hein, chaque fois que je représente une intersection, c'est un carbone. Hein. Donc on va déjà compter qu'il y a bien le bon nombre de carbones, d'oxygène, d'hydrogène et tout ça, et ensuite on va vous expliquer comment est-ce qu'on lit cette formule et comment est-ce qu'on la comprend tridimensionnellement. Alors, 1, on compte les carbones ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a bien 6 carbones, maintenant on compte les oxygènes. 1, il y en a dans le cycle, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on compte les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'oubliez pas qu'on ne représente pas les hydrogènes qui sont collés à des carbones. C'est comme pour la forme topologique. Okay, donc, on a bien la bonne forme. Là, ici, même chose. La seule différence, mais sans doute repérer, elle est là. On a un OH qui est dans le double, en haut ou en bas. Celui-là, il est en bas, celui-là, il est en haut. Alors pourquoi? Parce que cette forme-là, alors au début, je la représente avec la partie ici plus épaisse, hein, comme ça. Plus tard dans l'année, je vais arrêter de la représenter comme ça, mais il faudra toujours garder en tête que la partie qui est là, elle est toujours devant. Et la partie qui est là, on peut la représenter en pointillé, elle est toujours derrière. Donc finalement, c'est un petit peu comme si ce cycle à 6 atomes là, il était en fait comme ça. Voilà, donc avec l'oxygène qui est derrière et ça qui est devant vous. Donc il est présenté comme ça, mais en réalité il est à plat, il est comme ça. Et ce qui fait que ça là, ce OH ici, il est où par rapport au cycle? Il est en bas. Il descend, il monte, il descend, il monte, lui il descend. Donc déjà un cycle qui est comme ça, horizontal, donc pour nous il est vertical, ça va très bien, donc il est comme ça, et il y a un OH en haut ou en bas. Donc c'est finalement très adapté à des molécules qui sont des molécules à 4 ou 5, enfin, avec des cycles à 5 ou 6 atomes. Et une fois qu'on a compris que un blanc qui est au-dessus ou en dessous, en fait c'est assez intuitif comme façon de retourner. Donc du coup, la seule différence entre le alpha et le bêta, c'est que le premier carbone, parce qu'on veut que c'est le numéro 1, on ne va pas l'expliquer maintenant, on prend ça, c'est le carbone numéro 1, qui porte un groupement hydroxyle, qui est soit en haut, soit en bas, et c'est ça qui permet de différencier les deux formes du glucose. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de glucose? Parce qu'on parle de polymère glucidique. Et on aura juste le temps de définir ce qu'est l'amidon et ce qu'est la cellulose. L'amidon, c'est un polymère d'alpha-glucose. Ça, c'est l'amidon. Et la cellulose, c'est un polymère de bêta-glucose. Donc finalement, l'amidon et la cellulose, ça se ressemble énormément. En tout cas, en première approximation. On verra mardi prochain en cours que en fait, ça ne se ressemble pas du tout, parce que ça a beau être très très proche structurellement, donc il y a juste une histoire de cellules et de données entre les deux, ça en fait, des propriétés très proches. La cellulose, elle est dans les parois, l'amidon, au contraire, c'est une molécule nucléique qu'on trouve dans le cytoplasme. L'amidon, c'est le constituant du pain, la cellulose, c'est le constituant de la planche à pain. Au choix, vous mangez le pain, vous ne mangez pas la planche. C'est donc que c'est bien des molécules très différentes et on verra pourquoi marcher. Bon.